Et notre invitée ce matin, Éliane Bareille, bonjour.
Bonjour.
Présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence. Il ne fait pas vraiment bon être à la tête d'une collectivité territoriale en ce moment, je m'explique. Le budget a été présenté par le gouvernement et il vous amènera, vous, collectivité locale, à faire des efforts. 450 collectivités locales, que ce soit des Comcom, des départements ou des régions qui vont être mises à contribution, elles devront reverser jusqu'à 2% de leur budget dans un fonds qu'on appelle un fonds de précaution. C'est une sorte de cagnotte en fait nationale pour aider les autres élus en difficulté. En tout, on parle de 3 milliards d'euros pour contribuer au retour du déficit public à 5% du PIB l'an prochain. Premièrement, première question, Éliane Bareille, est-ce que vous comprenez cet effort qui vous est demandé ?
Alors, je le comprends, mais en même temps, je le déplore. Je le comprends parce que effectivement, on ne peut pas permettre que la France soit dans la situation dans laquelle elle est sans un sentir concerné. Et je pense qu'en tant qu'élu responsable, on doit se sentir concerné. Je le déplore parce que évidemment, la somme qui risque de nous, parce que c'est pas encore complètement définitif, la somme qui risque de nous être déduite. Bien entendu, notre action départementale. Nous sommes des petits départements, départements ruraux, avec de faibles budgets. Et donc, évidemment, on est censé nous demander 5 millions d'euros de contribution. 5 millions d'euros, c'est énorme pour un département comme le nôtre.
Voilà, vous confirmez, ce serait 5 millions d'euros de contribution pour vous. 5 millions d'euros. Oui, allez-y.
C'est ce qui est annoncé, mais enfin pour l'instant, c'est quand même définitif. Hein. Mais c'est ce qui est annoncé. En tout état de cause, bon, nous sommes un département qui aujourd'hui était plutôt avec une gestion saine et relativement facile, dans le sens où nous avons bénéficié dans les années antérieures de droits de mutation relativement élevés. C'est pas le cas de tous les départements, puisque à ce jour, il semblerait qu'une vingtaine de départements soient en situation très délicate, voire en cessation de paiement. Donc, évidemment, tout le monde doit mettre la main à la poche, je le comprends. Pour autant, il va falloir quand même que l'on fasse des économies supplémentaires.
Vous les voyez où, ces économies supplémentaires? 5 millions, ça n'est pas rien, même si ça peut bouger, bien évidemment, mais 5 millions, vous les trouverez où?
Déjà, nous avons. Je voudrais rappeler juste un point, quand même, avant de vous dire où je vais les trouver. C'est qu'aujourd'hui, les dépenses ont considérablement augmenté, mais elles ont aussi considérablement augmenté du fait des annonces de l'État. Je vous rappelle que l'année dernière, par deux fois, il y a eu l'augmentation d'indice des fonctionnaires, il y a eu l'augmentation du RSA, il y a eu bien entendu l'augmentation de l'électricité qui nous a vraiment mis aussi en difficulté. Donc tout cela fait effectivement que nous avons eu des augmentations sur nos dépenses et notamment sur notre masse salariale qui sont relativement importantes. Donc, bien sûr, il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire où je vais les trouver. C'est sûr que je vais certainement me pencher sur le budget, notamment le budget social, puisque c'est 104 millions d'euros de budget social que nous assumons tous les ans. Je vais regarder là où il y a des économies à faire. Je vais regarder, bien entendu, sur nos propres dépenses de fonctionnement, sur nos bâtiments, etc. Et puis, je vais regarder aussi sur nos plans d'investissement. Donc, on va regarder ça de manière très attentive. Il ne s'agit pas de prendre des décisions à l'emporte-pièce qui mettraient tel ou tel en difficulté.
Mais qu'on comprenne bien, un budget social pour le département, c'est un budget quand même qui est essentiel. On parle de solidarité, on parle de vieillesse.
Oui,
d'enfance,
bien sûr,
de famille, il y a plein de domaines.
Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis, il ne s'agit pas de prendre des décisions à l'emporte-pièce et qu'il faut que l'on regarde si réellement nous sommes en capacité de faire des économies à ce niveau. Ce qui est de sûr, c'est qu'il faut que nous arrivions à serrer les boulons et ça sera valable pour l'ensemble des services. Déjà, cette année, nous avons été un peu plus stricts et donc du coup, nous avons déjà demandé aux services de faire un effort particulier, mais nous allons faire un effort supplémentaire. supplémentaires, ça va de soi.
On n'en demande quand même pas trop, collectivité territoriale.
Ben, on en demande beaucoup parce que je rappelle juste que contrairement à l'État, les collectivités territoriales, elles ne peuvent pas voter un budget en déséquilibre. Et que donc, quand les collectivités territoriales, les départements, les communes, les intercos, quand elles votent leur budget, elles sont à l'équilibre, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas prévoir plus de dépenses qu'elles n'ont de recettes, ce qui n'est pas le cas de l'État. Donc, bien entendu, on en demande beaucoup parce qu'aujourd'hui, si on nous demande de financer plus et de réduire nos dépenses, on sera vraiment en difficulté pour assumer tout ça. Surtout dans le contexte inflationniste que nous subissons, parce qu'il faut aussi se mettre dans la situation actuelle avec une inflation qui est énorme et qui nous met donc en grande difficulté quand même.
Cette discussion que l'on a justement actuellement sur ces économies qui vous ont demandé de la part du gouvernement, ça va forcément influencer aussi vos discussions lors de la plénière de vendredi où vous allez présenter les orientations budgétaires.
Bien sûr, je vais présenter les orientations budgétaires, mais je vais surtout informer nos élus qui ne le sauraient pas encore du montant que nous risquons de perdre dans nos recettes. Parce qu'il faut que tout le monde soit sensible à ça et que tout le monde comprenne qu'il va falloir faire des économies.
Autre sujet, c'est Michel Barnier, le Premier ministre, qui a décidé d'abandonner la semaine dernière le transfert obligatoire de la compétence eau et intercommunalité qui devait être transféré dès 2026 aux intercommunalités. Et dans les Hautes-Alpes, il y a une autre idée qui est en train de naître, c'est de transférer aux conseils départementaux la compétence de la gestion des inondations. Entre ces deux compétences, tout d'abord, une réaction rapide sur ce transfert qui ne sera plus obligatoire de la compétence eau et assainissement, ça allait de soi pour vous, Eliane Bareil?
Mais écoutez, je pense que ce qui est bien, ce qui est sage, me semble-t-il, c'est d'écouter enfin les élus de base. Donc il y avait un certain nombre de communes ou de communautés de communes qui ne souhaitaient pas ce transfert. Bon, dont acte. Après, certaines qui sont très engagées maintiennent le transfert aux intercos. Elles se sont organisées, elles maintiendront le transfert aux intercos. Chez nous, dans 04, il n'y a pas eu cette réflexion sur la possibilité de portage par le département qui est déjà engagé depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans le 05. Après, sur la compétence GEMAPI, je ne vous cache pas que ça a été une transfert de l'État, hein, transfert de cette compétence et donc de la gestion des inondations sur les communautés de communes. Et bien entendu, la capacité que les communautés de communes ont trouvée au travers d'une taxe GEMAPI que l'on voit sur nos impôts locaux, ne comblera jamais et ne suffira jamais à financer l'ensemble des travaux qui sont nécessaires dans nos cours d'eau. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien des difficultés que ici ou là nous rencontrons avec des débordements de cours d'eau qui génèrent effectivement des dégâts excessivement importants. Donc aujourd'hui, pour nous, la question ne se pose pas encore, mais peut-être qu'un jour elle se posera concernant, si ce n'est le transfert, un minimum l'aide aux collectivités pour leurs compétences GEMAPI.
Et on rappelle que le sénateur basalpin Jean-Yves Roux a été l'auteur d'un rapport concernant notamment cette compétence GEMAPI où il appelait à plus de solidarité entre l'amont et l'aval. Parlons de la santé dans les Alpes-de-Haute-Provence, un état de santé alarmant pour la santé basalpine. On rappelle bien évidemment les urgences de Manosque qui sont fermées les nuits, celles de Digne-les-Bains également. Et puis ce chiffre, 5700 basalpins sont sans médecins traitants, plus de 60% des médecins généralistes vont bientôt partir à la retraite. Quand je dis que l'état de santé est alarmant, il l'est.
Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons réagi et que nous ouvrirons donc à la fin de l'année le centre départemental de santé. Contre vents et marées et surtout contre l'opposition qui me disait il ne faut pas y aller parce que ça n'est pas la compétence départementale, au vu des chiffres que vous venez de donner, parce que c'est bien ça qui nous a décidé, nous avons décidé de créer un centre départemental de santé. Donc c'est chose faite, il va ouvrir ses portes bientôt, nous avons déjà la quasi-totalité du personnel personnel pour le faire fonctionner. Nous allons faire une expérience et si ça marche bien, nous envisageons ce convoi semblablement d'en mettre un deuxième ailleurs. Aujourd'hui, honnêtement, effectivement, vous avez raison de le dire, il y a un avenir très incertain sur la santé dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Et il y a un sujet dont vous ne parlez pas, mais dont je vais vous parler, qui contribue donc notamment à la gestion des urgences sur Digne, c'est l'hélicoptère. Parce que nous avions obtenu avec force déplacement au ministère de l'Intérieur que l'hélicoptère de la gendarmerie puisse servir aussi au transport sanitaire. Et aujourd'hui, je dois rencontrer très prochainement le directeur régional de l'ARS. Il semblerait que ça soit pas complètement pérenne. Et ça n'est pas acceptable. Nous sommes le seul département alpin à ne pas avoir d'hélicoptère de montagne. Donc, il est pour nous vital que ce transport sanitaire par l'hélicoptère de la gendarmerie puisse perdurer.
La gendarmerie, elle en dit quoi ?
Ah ben, la gendarmerie est favorable, bien évidemment. Mais vous vous rendez compte que grâce aux médecins viennent participer au transport par hélicoptère, nous maintenons complètement les urgences de Digne. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui sauve les urgences de Digne, mais ça y contribue.
Et vous allez présenter une motion allant dans ce sens ce vendredi lors de la plénière.
Absolument.
Merci beaucoup, Éliane Barret, d'avoir été avec nous ce matin pour parler justement de la rentrée des Alpes-de-Haute-Provence qui s'annonce être une rentrée avec des économies. Merci d'avoir été avec nous.